Chapitre 4. Votons, dit Caroline, la majorité l'emportera. Ne donnez pas de voix à votre mari, cousine, dit Robert. Il vote non sur toutes les questions, il me l'a dit. Eh bien, je voterai pour lui et pour le petit, qui est le plus intéressé au résultat. Cela fait déjà 3 oui. Mais où est Mika? N'est-elle pas rentrée avec vous, Robert? Elle ôte sans doute son capuchon dans sa chambre. Elle ôte sans doute son capuchon dans sa chambre. Je vais la chercher, nous aurons besoin d'elle. Resté en présence du cauchemar, Robert lui tourna brusquement le dos et prit sur la table un livre qu'il feuilleta d'une main rapide, comme s'il y cherchait quelque chose. « Vous avez fait une promenade matinale, » commença David Borel d'un ton conciliant, car il croyait Robert en proie à quelque accès de maussaderie sans cause, comme en ont parfois les convalescents. « Oui, vous aussi apparemment. » « J'ai peu de loisirs pour les promenades, » répondit l'évangéliste avec un sourire qui acheva d'agacer Robert. « Je cours du matin au soir où mes fonctions m'appellent. »« Ah, et elle vous appelle ici très souvent ?»« Cette maison m'est très chère, » fit David Borel d'un ton ferme, sans se laisser démonter par l'expression railleuse qui passa sur le visage de Robert. « Je suis reconnaissant d'avoir trouvé de si bons amis dans une région et dans une tâche où des difficultés nombreuses m'assaillent journellement. » C'était répondre comme il fallait, bien que le ton et la phrase fussent un peu trop solennels, un peu trop oratoires. Robert eut la bouche fermée et en conçut une certaine estime pour son interlocuteur. « Mademoiselle Mika ne descend pas, » reprit David Borel au bout de quelques minutes. Robert eut un tressaillement de satisfaction. « Je ne crois pas qu'elle descende, elle était fatiguée, » dit-il. Mais au même instant, la porte s'ouvrit. Caroline entra, suivie de Mika, qui baissait les yeux et alla précipitamment s'asseoir dans un coin, le dos tourné à la lumière. « Je t'en ai déjà parlé, » disait Caroline. « Tu sais que je meurs d'envie de faire un arbre de Noël pour Riquet. »« À quoi bon? Il est trop petit, il n'y verra. » « Que du feu !» dit Robert. « Ce n'est vraiment pas la peine d'orner un arbre pour un poupon de 6 mois !» poursuivit Mika d'un ton abattu et lassé qui ne lui était pas ordinaire. « Eh bien, voici comment je raisonne, moi !» s'écria Caroline en riant. « Si je m'étais mariée 10 ans plus tôt, comme j'aurais dû le faire, Riquet aurait 10 ans à l'heure qu'il est. C'est donc un arriéré de 10 arbres que nous lui devons et nous n'avons pas de temps à perdre. » Du reste, le sapin fera plaisir à chacun. Sully et Jenny seront des nôtres, j'espère. Nous inviterons quelques voisins, ce sera une petite fête. Monsieur Borel, nous comptons sur vous. C'est donc arrangé. Maintenant, votons. » Ils se mirent tous à rire, mais Mika semblait incapable d'entrer avec quelque gaieté dans le projet de sa sœur. La tête baissée, elle jouait d'un air distrait avec les plis de sa robe, les froissant, puis les étendant du revers de la main. « Vous avez l'air triste, mademoiselle Mika, » lui dit David Borel un peu lourdement. « Triste, moi, pas du tout, » fit-elle en tressaillant. « Au contraire, je suis gaie, très gaie. » Sa voix trembla, elle inclina davantage la tête. Robert adressa à Caroline un regard étonné qui questionnait. Elle haussa les épaules. « Allez couper l'arbre, » dit-elle, « et choisissez bien. » Mais Robert se récria. « C'est trop de responsabilité, » dit-il. « Pour un choix aussi important, j'aurais besoin de conseils. » Il regardait Mika, espérant qu'elle s'offrirait à l'accompagner. Mika ne remua pas, ne leva pas même les yeux. « J'irai avec vous si vous voulez, » dit l'évangéliste, désirant prouver à Robert qu'il ne lui gardait aucun ressentiment de sa mauvaise humeur. « Partons donc, » fit Robert sans grand enthousiasme. Caroline, trouvant Mika en larmes dans sa chambre, l'avait vivement interrogée, sans tirer d'elle autre chose que des mots entrecoupés, d'où elle conclut que la cause du chagrin de sa sœur était absolument puérile, qu'il s'agissait d'une partie de traîneau malencontreusement interrompue ou de quelques paroles étourdies de Robert. Elle consola Mika de son mieux, la raillant un peu de son enfantillage, puis elle l'emmena pour la distraire en l'entretenant de la petite fête qu'elle projetait. mais voyant qu'elle n'y réussissait pas, elle courut à d'autres soins après le départ des deux jeunes gens, laissant Mika seule à sa place habituelle, son aiguille oisive piquée dans la bastisse qu'elle froissait sans y penser. Pauvre petite Mika, au moment où la porte s'était refermée sur Robert, elle avait senti en elle comme un déchirement, et il en était ainsi depuis bien des jours, aussitôt qu'elle le perdait de vue. Elle vivait de lui, de sa présence, de ses paroles. Sans lui, tout n'était qu'un grand vide où elle flottait indifférente. Il l'absorbait entièrement. Ses pensées n'avaient plus qu'une pente, elles coulaient impétueusement vers lui. Chercher à le comprendre, se répéter sans cesse ses moindres paroles, lire les mêmes livres que lui, entrer pour ainsi dire dans sa vie par quelque fissure, était maintenant l'unique effort de Mika. Et pourtant, elle ne se faisait aucune illusion. Elle voyait Robert tel qu'il était, elle savait qu'il ne songeait pas à elle. Elle eut même consenti à admettre qu'il était moins beau que David Borel, que ses vues étaient moins justes, son esprit bien moins équilibré. Mais que signifiaient ces comparaisons? C'était Robert qu'elle aimait, tel qu'il était, non autrement. Elle aimait ses traits irréguliers, ses yeux gris, son sourire un peu ironique, ses mouvements un peu brusques. Elle aimait sa tournure d'esprit, ses paradoxes, et elle trouvait qu'il avait raison d'avoir tort. Quand il fut sorti, le sentiment poignant d'abandon qui s'empara d'elle l'obligea à se lever comme pour courir après lui, mais elle se fit violence et se rassit. « Que vais-je devenir quand il partira ?» se dit-elle. Elle avait le cœur trop serré, trop angoissé. Ses larmes jaillirent de nouveau, malgré ses efforts. Robert, portant une petite hache, marchait le premier dans la neige épaisse où ses bottes frayaient un étroit sentier. David Borel, derrière lui, par cet esprit de devoir qui inspirait toutes ses actions et qui, bien que méritoire, semblait parfois un peu lourd, David Borel cherchait à entretenir la conversation. Il parla du temps, de la neige, d'une famille pauvre qu'il visitait. Il n'avait pas l'esprit brillant, mais le sens droit et les idées nettes. Robert finit par l'écouter avec intérêt, puis il le questionna et se mit à lui parler lui-même avec quelque abandon. En arrivant à la lisière du bois, ils causaient presque intimement. « C'est ici que les difficultés commencent, » dit David quand ils eurent franchi le mur dont le faîte seul, une ligne grise, irrégulière, se laissait apercevoir. « Heureusement, la neige est dure, nous n'enfoncerons pas trop. » « Ne trouvez-vous pas que mademoiselle Mika a mauvaise mine depuis quelques jours? Je crains qu'elle ne soit malade. »« Je ne m'en suis pas aperçu, » fit Robert un peu sèchement. « Il faut donc qu'il ne la regarde guère, » pensa David Borel. « Sans doute, je m'alarme à tort, » reprit-il. La phrase était maladroite. Robert la trouva indiscrète et impertinente. Cependant, il se tut et, devançant son compagnon de quelques pas, il se mit à examiner une rangée de petits sapins alignés derrière le mur comme des cadets à la revue. « Je ne sais trop quelles conditions doit remplir un parfait sapin de Noël, » dit-il en s'arrêtant tantôt devant l'un, tantôt devant l'autre et en secouant le rameau chargé de neige. « Il faut, j'imagine, qu'il soit droit et touffu et qu'il ait les branches régulièrement espacées. » « J'ai cru m'apercevoir, poursuivit David en le rejoignant, que l'idée de cette fête ne lui souriait guère. « Vous êtes décidément un esprit observateur, » dit froidement Robert. « C'est vrai, et dans ce cas particulier, couperons-nous celui-ci, » fit Robert avec impatience. « Comme il vous plaira. Non, il est trop petit, son voisin nous conviendrait mieux. « Parfaitement. Il faut avouer que vous en prenez à votre aise, » s'écria Robert. « Vous êtes un joli conseiller. »« J'ai l'esprit distrait par des choses d'une toute autre importance, » murmura David. « C'est vous, au contraire, que je voudrais prendre pour conseiller. »« À quel propos ? Vos relations de parenté et d'amitié avec la famille ?»« Je me récuse, » interrompit vivement Robert. « Pourquoi donc ? Vous me voyez très perplexe. Je connais bien vos théories personnelles sur la question... » « Sur la question du mariage. »« Mes théories, » protesta Robert, « que savez-vous de mes théories? Si vous avez pris au grand sérieux quelques boutades... » « Mais je suis persuadé, » poursuivit David, dont les idées ne faisaient pas aisément volte-face, « je suis persuadée que vous ne feriez pas de ces théories une règle générale, applicable à chacun, à moi par exemple, ou à Mademoiselle Mika. » Robert s'affit d'un air résigné sur le petit mur, sa hache entre les genoux, et prit la figure qui convient au rôle de confident sans le vouloir. « Je me demande depuis quelques jours, reprit David, si je vous confierai mes perplexités. Pourquoi pas ?»« Pourquoi pas, en effet, dit Robert avec une intonation ironique que son interlocuteur ne remarqua point. « Merci de cet encouragement, fit-il en s'asseyant à son tour. Vous êtes le proche parent de la personne que j'ai déjà mentionnée, vous la voyez chaque jour. Peut-être avez-vous remarqué... « Non, je n'ai rien remarqué, interrompit brusquement Robert. Mais vous pourrez assurément me dire « Rien, absolument rien, si le moment serait mal choisi pour m'avancer. Très mal choisi. Et pourquoi donc? Est-ce que je sais, moi, est-ce que je suis dans la confidence de ma cousine? Il y a des gens qui ne savent pas battre en retraite. Ils vont de l'avant, ils s'obstinent, ils aggravent, ils mettent les pieds dans le plat. » « Cependant, si vous avez des raisons de croire que le moment serait mal choisi, je serais bien aise de les connaître, insista David. « Cher monsieur, faites-moi la grâce d'en demeurer là, dit Robert en se levant. Suis-je donc un bonhomme à cheveux blancs, un bonze, un ornement de cheminée, pour que vous me croyiez le confident d'une jeune personne? Je ne suis pas le frère de Mika, monsieur, je ne suis que son cousin. » « Grand ciel !» s'écria David en reculant. « Est-ce que vous songeriez ?»« Non, je n'y songeais pas, mais votre conversation est de nature à m'en suggérer l'idée. »« Ah bien !» dit l'évangéliste qui se leva. « La liste est ouverte à tous, monsieur. Je vous demande pardon de n'avoir pas deviné en vous un concurrent. »« Je n'ai pas dit que je le fusse !» s'écria Robert, voyant avec une sorte de rage dans quelle position fausse il s'était jeté, et combien l'attitude de David était plus digne que la sienne. « Je ne vous comprends plus, » dit l'évangéliste avec quelque froideur. « Il n'est point nécessaire que vous me compreniez, » répliqua Robert. Et il sentit qu'il s'enferrait de plus en plus, qu'il s'enfonçait dans l'équivoque. Il eut honte de lui-même. « Achevons notre besogne, » dit-il brusquement. Il se dirigea vers le premier sapelot venu, sans le regarder seulement, déblaya du bout de sa botte la neige qui en cachait le pied, puis, en deux ou trois coups de hache, l'abattit. Il le chargea ensuite sur son épaule et s'éloigna. David Borel le suivit silencieusement.